Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, alerte inflation, les prix continuent de grimper en France, 4,5% sur un an en mars. Conséquence mécanique, le SMIC augmentera de 2,5% environ le 1er mai. Les conséquences de cette poussée de l'inflation, on en parle dans quelques minutes avec l'économiste Éric Heyer. Le pouvoir d'achat, principal sujet de campagne à 10 jours du premier tour. Emmanuel Macron en Charente-Maritime alors que l'écart se resserre avec Marine Le Pen. Les Insoumis insistent sur l'affaire McKinsey. Valérie Pécresse présente son programme des 100 premiers jours. L'Ukraine, la guerre de l'information et les propos chocs du directeur du renseignement britannique. Une partie des soldats russes est à court d'armes et le moral en berne. Les conseillers de Poutine, dit-il encore, ont peur de lui dire la vérité. Une opération d'évacuation humanitaire va-t-elle enfin réussir à Mariupol? Le gouvernement ukrainien est prêt. 17 bus sont en route.
Nous ferons tout notre possible pour qu'ils arrivent aujourd'hui à Mariupol et prennent les civils qui n'ont toujours pas pu quitter la ville.
Nous verrons qu'en France, des particuliers russes sans lien avec le régime voient les virements sur leurs comptes bloqués. Ils sont vérifiés. À 13h30, moment de plaisir, nous vous dirons quels sont les livres et les jurés sélectionnés pour le 48e prix du livre Inter. Je serai avec Eva Bétan et la présidente du jury Delphine de Vigan. Un quart d'heure pour parler du plaisir de lire. Le vif de l'histoire, que vont devenir les œuvres de la collection russe Morozov exposée à Paris? Et puis dans C'est une chanson, aujourd'hui de la musique iranienne. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Inflation à plus de 7% sur un an en Allemagne, prévision à 8% au Royaume-Uni, déjà à près de 10% en Espagne. La France s'en sort un peu mieux, mais les prix augmentent toujours plus vite au fil des semaines et des mois. 4,5% sur un an en mars, c'est près d'un point de plus qu'en février. Les budgets sont de plus en plus difficiles à boucler. Hugo Charpentier a recueilli le témoignage de Céline. C'est une jeune mère de famille, elle vit près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Malgré un salaire de 2000 euros, qu'elle estime confortable, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts depuis plusieurs mois.
C'est-à-dire qu'on va être payé genre le premier du mois et déjà le 15, ça devient déjà compliqué, quoi. C'est vrai que ces derniers temps, on ne peut plus mettre de côté. En décembre, on a eu la régule de EDF et de gaz. Voilà, ça prend toutes les économies, quoi. Ben là, on a décidé d'éteindre la chaudière avec les prix actuels. C'est juste pas possible. Donc, les vacances, ben, ça sera une semaine cet été. Ben, ce que je me dis, c'est qu'à 45 ans, on n'arrive pas à s'en sortir sans ses parents. Parce que ma mère et mon père, derrière, ils nous aident aussi quand il y a des problèmes de fin de mois. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Nous, nos parents, ils avaient juste 20 ans, d'ailleurs, parce qu'ils étaient jeunes parents. Et il y a 20 ans, et ben, ils se démerdaient. Voilà. Et nous, l'avenir, pour nos enfants, on se dit, mais comment elles vont faire?
Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. 4,5% d'inflation sur un an en France. Qu'est-ce qui augmente? L'énergie, bien sûr, mais pas seulement.
Oui, mais c'est quand même essentiellement l'énergie. C'est-à-dire que, vous voyez, la composante énergétique, ça a augmenté de quasiment 30% sur un an. Donc, c'est sûr que ça fait un gros élément. Parce que, ensuite, quand vous regardez, admettons, les produits manufacturés ou les services, ça a progressé de 2%, de 2,1, 2,3. Donc, on est vraiment dans la norme de l'inflation. Vous voyez, on ne cherche pas 0% d'inflation. On cherche une inflation stable aux alentours de 2. Et donc, ce qui a aussi fortement augmenté à côté de l'énergie, c'est l'alimentation, notamment les produits frais. Quasiment plus de 7% d'augmentation. Donc voilà, c'est les deux composantes et c'est les deux composantes que l'on consomme un peu tous les jours. Oui. Hein, les produits frais et l'énergie, c'est ça qui explose, c'est ça qui augmente très fortement, alors que les produits manufacturés, vous voyez, vous achetez pas une voiture ou une machine à laver tous les jours. Et donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui cela qui fait dire à certains économistes, c'est pas complètement de l'inflation parce que c'est pas tous les prix qui augmentent aujourd'hui, c'est certains prix, mais ça fait bien, on rogne bien le pouvoir d'achat des ménages, notamment des plus modestes, parce que la composante énergétique et alimentaire chez les ménages plus modestes pèse beaucoup plus que pour un ménage aisé.
Alors, quand les prix ont commencé à augmenter, on pouvait entendre des analyses sur le thème « ce sera passager ». Est-ce que cette inflation est en train de s'installer durablement ?
Alors, pour l'instant, on peut pas dire que c'est durable, dans le sens où, puisque c'est concentré sur deux éléments, à la fois l'énergie et l'alimentation. Bon, l'énergie, on sait un peu pourquoi. Il y a eu à la fois, il faut rappeler quand même un énorme choc de demandes supplémentaires. Tout le monde, après les premiers confinements, ont voulu reconsommer énormément alors que l'offre n'avait pas complètement augmenté. Et puis, il y a eu la crise ukrainienne qui a rajouté un deuxième coup. Mais on peut considérer que petit à petit, les prix du baril ne vont pas augmenter aussi fortement. Et donc, cette partie-là pourrait, dans l'avenir, se stabiliser, donc une inflation un peu moins forte. De la même manière, c'est la crise ukrainienne qui explique le blé, l'augmentation très forte du blé ou du tournesol, donc de l'alimentaire. Donc ces éléments-là peuvent, si les tensions géopolitiques venaient à se résorber, se résorber également. Donc on ne peut pas encore complètement dire que c'est durable, mais ça va en tout cas perdurer encore quelques mois, ça c'est sûr.
4,5 en France, près de 10 en Espagne, autour de 8 au Royaume-Uni. Pourquoi s'en sortons mieux que nos voisins?
Alors, pour différentes raisons. D'abord, d'un point de vue énergétique, on a un mix énergétique qui est un peu plus favorable qu'un certain nombre de pays. Et puis parce que on a sans doute, notre gouvernement a pris un peu plus de décisions pour bloquer les prix, faire un bouclier énergétique. Et donc, c'est l'électricité, admettons, le prix de l'électricité qui a beaucoup moins augmenté en France qu'ailleurs pour les deux raisons. Et notamment, il faut rappeler, on a dépensé quasiment près de 30 milliards d'euros pour essayer de limiter la hausse de ces prix-là. Ouais, bon, ça marche parce qu'on a une inflation plus basse, mais ça coûte cher. Ça coûte, dans les autres pays, ils ont mis à peu près moitié moins d'efforts. Et donc, il y a un coût budgétaire quand même derrière cela. Ça veut dire que c'est la collectivité qui quelque part prend en charge une partie seulement de cette hausse de l'inflation.
Alors, un autre chiffre clé de la matinée, c'est le chômage toujours au plus bas dans la zone euro. 6,8% nous dit Eurostat. Hausse des prix, chômage bas, ça veut dire tension sur les salaires dans les semaines, les mois à venir.
C'est possible. Voilà. C'est effectivement, normalement, on a à la fois un peu partout en Europe une baisse du chômage et des difficultés à recruter qui sont à des niveaux historiquement élevés. Donc ces deux éléments-là indiquent que le marché du travail est tendu et donc lorsqu'il y a des tensions sur ce marché du travail, le rapport de force est plutôt en faveur du salarié plus qu'en faveur de l'employeur. Et donc normalement, quelques mois ou trimestres plus tard, il y a des augmentations de salaire qui reflètent cette tension-là. Si vous rajoutez en plus à cela, le fait que, pour l'instant, c'est les salariés consommateurs qui absorbent l'augmentation de l'inflation, puisqu'il n'y a pas encore des salaires qui se sont ajustés, ces deux arguments-là pourraient laisser entendre que, justement, les salaires pourraient progresser dans les mois ou trimestres à venir. Et là, alors pour le coup, on pourrait parler réellement d'inflation, parce que si les salaires venaient à finalement s'ajuster par rapport à cette inflation, alors on pourrait considérer que les entreprises voient tous leurs coûts augmenter et donc répercutent cette augmentation de coûts dans tous les prix. Et donc là, on verrait aussi les produits manufacturés ou les services avoir une inflation plus forte. C'est pour ça que le gouvernement essaye de plutôt donner des subventions pour compenser ces pertes de pouvoir d'achat qu'une hausse de salaire.
Merci Éric Heyer, économiste directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Inflation en hausse, le SMIC, c'est mécanique, va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4 et 2,6%. Le chiffre exact sera connu le 15 avril. Entre guerre et sanctions, c'est évidemment en Ukraine et en Russie que l'impact économique est le plus massif selon la Banque européenne pour le développement. L'économie ukrainienne pourrait se contracter de 20% cette année et l'économie russe de 10%. Et puis l'économie, en bref, c'est aussi la grippe aviaire particulièrement virulente cette année. Jusqu'à un quart de la volaille française pourrait être concernée selon la FNSEA. On parlait inflation à l'instant. Le pouvoir d'achat, sujet de préoccupation numéro un des électeurs selon les instituts de sondage. Autre fait de campagne à 10 jours du premier tour, l'écart qui se resserre dans les intentions de vote. Ce ne sont que des intentions de vote. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pourrait-elle l'emporter le 24 avril? En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'en prend au projet de la leader d'extrême droite. Ce projet consiste à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et Emmanuel Macron effectue un nouveau déplacement de campagne aujourd'hui. Foura, Charente-Maritime, où cette question demeure, Maxence Lambrecq, gare à la banalisation du Rassemblement National.
Oui, le candidat lui-même s'en inquiète et c'est des deux côtés du micro que la responsabilité est à chercher selon lui.
Le monde politico-médiatique a changé. Il y a 20 ans, les médias que vous étiez disaient c'est terrible, Front Républicain, etc. Les forces politiques républicaines disaient jamais. Il n'y a plus cette réaction, il n'y a plus là. Les gens ont détourné le regard, disent c'est plus sympathique, l'ont banalisé. Et il ne faut pas s'étonner.
Moi, je n'ai jamais banalisé le FN, assure-t-il. Je vais me battre contre leurs idées jusqu'à la dernière seconde. Déjà 2 heures de déambulation dans cette rue piétonne près du Fort Vauban. McKinsey démission, a lancé un badaud à son arrivée, vite écarté. La place des cabinets de conseil dans ce quinquennat, un faux sujet pour le candidat.
Vous avez attendu avec impatience cette campagne, ne la mettez pas sur des faux sujets. Et quand je regarde les voisins, ils font 5 fois plus que nous.
Pas de mea culpa, ce n'est pas un sujet qui change la vie de la nation, insiste-t-il, essayant de convaincre une dame choquée par les montants engagés. Puis arrivent les interpellations sur la réforme des retraites, sur la fin de vie. Il se dit personnellement favorable au modèle belge. Inaction climatique, hurle après des militants écolos. L'écologie, thème officiel de ce déplacement qu'il n'a pas encore abordé car il se veut à portée d'engueulade jouer comme Marine Le Pen la carte de la proximité et faire face à l'actualité.
Maxence Lambrec en direct de Foura, Charente-Maritime avec Christophe Papon pour France Inter. McKinsey, vous en parliez, Maxence. Emmanuel Macron et ses soutiens ont-ils apaisé la controverse qui monte? Les près de 900 millions d'euros, pas loin du milliard dépensé l'année dernière pour faire appel à des cabinets de conseil privés pour épauler le gouvernement. Hier, lors d'une conférence de presse, la ministre de la fonction publique et celui des comptes publics ont esquissé une contre-attaque. Recours habituel, disent-ils, utile et qui ne représente que 0,3% de la masse salariale de l'État. Et puis pas nouveau, c'était le cas sous les quinquennats précédents, mais ils ne donnent pas de chiffres. C'est notamment un rapport du Sénat dénonçant un phénomène tentaculaire qui a ouvert le débat. Commentaire, vous allez l'entendre, du sénateur président de la commission d'enquête après cette contre-attaque du gouvernement, c'est l'élu Les Républicains Arnaud Bazin. Deux précisions techniques pour bien le comprendre. Il dénonce un manque de transparence dans les procédures d'appel d'offres ces dernières années qui passent par des accords cadres dont peu de détails sont rendus publics. Et puis la révision générale des politiques publiques pour lequel Nicolas Sarkozy a lui aussi fait appel à des cabinets privés, c'était pour le dire vite une réforme dans les méthodes de l'État. Arnaud Bazin.
Ce que nous observons, c'est que à l'époque, et c'est une différence tout à fait notoire de la révision générale des politiques publiques sous Nicolas Sarkozy, le phénomène était transparent et assumé. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'assume pas ce milliard de dépenses et qui l'a fait dans des conditions non transparentes avec ses accords cadres. Voilà, c'est une différence importante. Dernière différence, et elle est de taille aussi, c'est que la RGPP, c'était une ambition de transformation des services publics et c'était totalement assumé en face de la dépense. Dont on ne connaît pas le montant aujourd'hui, il y avait de la prestation. Et quelles ont été, pour 1 milliard d'euros, les transformations profondes des services publics dans le dernier quinquennat? On peut s'interroger.
Propos recueillis par Marc Fauvel et Arnaud Bazin ajoute que parmi les conclusions de sa mission d'enquête, qui ne sont pas démenties, le fait que le cabinet McKinsey, l'un de ses cabinets de conseil, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis 10 ans. Cette affaire, les adversaires d'Emmanuel Macron s'en emparent. Le camp de Jean-Luc Mélenchon, en conférence de presse ce matin, est toujours cet espoir du côté des Insoumis accéder au second tour. Les deux adversaires sont donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Laurence Perron.
Et parmi les outils prévus pour être diffusés à grande échelle, un comparatif du programme de l'Union Populaire avec ceux d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
On assume de le faire, de s'adresser à des électrices, des électeurs qui hésitent, peut-être parfois se disent, c'est peut-être Marine Le Pen qui est la candidate, qui nous défend, etc. Et on veut faire l'effet Dracula, on allume la lumière et on montre la réalité des propositions. Et l'objectif, par exemple, du tract de la dernière ligne droite qu'on vous a présenté, c'est de faire ce travail. Non, Marine Le Pen, ça ne peut pas être la candidate du pouvoir d'achat quand elle vous dit que le blocage des prix, c'est une proposition avec laquelle elle est en désaccord, qu'on ne peut pas augmenter le SMIC parce qu'on va ruiner l'ensemble de l'économie, que la retraite, c'est plus 60 ans pour tout le monde parce que c'est trop compliqué. Voilà, ça je pense que c'est un discours. Après, est-ce qu'on arrivera à convaincre? On verra.
Outre l'effet Dracula, les Insoumis considèrent que la rémunération du cabinet de consultants privé McKinsey par l'État va coller comme un sparadrap au président de la République candidat.
C'est une affaire qui est une affaire d'État, avec quand même des interrogations sur les liens qui peuvent exister entre ces cabinets privés et le président de la République lui-même, puisqu'un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces cabinets privés ont travaillé dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017.
À 10 jours de l'élection présidentielle, le ton a été donné par le candidat lui-même. Aller chercher chaque centimètre de terrain électoral avec les dents.
La campagne en bref, Jean Lassalle ce matin au micro de nos confrères de Sud Radio. Les Français ne se sentent absolument pas concernés par cette élection, dit le candidat. Ils n'ont plus envie d'aller voter. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La France est en train de prendre feu et nous faisons une campagne où nous ne disons rien de ce qu'il faudrait faire pour calmer le jeu. Quant à Valérie Pécresse, elle présentait ce matin son programme des 100 premiers jours si elle est élue.
Avant les élections législatives, je lancerai les grands chantiers et prendrai les décisions réglementaires urgentes pour notre pays. Il y aura 7 grandes initiatives qui seront lancées sans attendre. Le sommet européen, prévu fin juin, devra être consacré à la protection des intérêts de l'Europe et des Européens. Je lancerai la revue stratégique en matière de défense. Ensuite, je lancerai la première conférence sociale et salariale pour lancer la mesure phare de mon quinquennat, l'augmentation des salaires de 10%. Ensuite, une conférence de simplification. Ensuite, je lancerai une grande conférence liberté locale. Ensuite, il y aura un audit de la situation de l'ensemble des comptes publics de la France. Et enfin, 7e initiative, je lancerai l'Élysée de l'environnement pour rétablir la trajectoire de lutte contre le changement climatique.
Propos recueillis par Élodie Forêt. Pour vous faire une idée un peu différente du programme des candidats, franceinter.fr leur pose 100 questions sur la jeunesse. Dernière en date à avoir répondu, Fabien Roussel. Qu'y a-t-il de saillant dans ses réponses, Antoine Gignot?
Sa priorité, ce sont les étudiants. Avec la création d'un revenu minimum de 850 euros, la fin de Parcoursup, la multiplication des passerelles, de l'investissement dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation en général, Fabien Roussel propose une augmentation de 30% du salaire des enseignants, des embauches pour garantir les remplacements et des échanges internationaux facilités. Il veut aussi donner plus de moyens pour lutter contre le cyberharcèlement et rembourser les consultations de psychologues, rembourser aussi le permis de conduire avec une aide pour acheter un premier véhicule. Le candidat du Parti communiste promet également de rendre les transports gratuits pour les jeunes et veut faire augmenter le nombre de logements fournis par les CROUS. Il se dit enfin favorable à une grande campagne contre les discriminations, le déblocage d'1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et face aux inquiétudes climatiques, il veut encourager les actions des jeunes. Quant à ceux qui resteront trop déprimés, sa recette pour réenchanter la jeunesse, c'est la diffusion gratuite des matchs de Ligue 1.
Sur franceinter.fr, vous pouvez également réécouter l'interview de Fabien Roussel, qui était ce matin l'invité du 7-9, et trouver beaucoup d'éclairage sur cette campagne à J-10. Dans l'actualité, en bref, 7 militants de Greenpeace arrêtés ce matin après avoir réussi à pénétrer sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville dans la Manche. Ils voulaient, je les cite, dénoncer l'irresponsabilité des candidats pro-nucléaire à la présidentielle. Une nouvelle manifestation prévue dimanche en Corse. Les militants nationalistes appellent à un rassemblement à Ajaccio pour réclamer, et là aussi je cite, « justice et vérité après la mort d'Ivan Colonna ».
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Nous sommes entrés dans la 6e semaine de guerre en Ukraine et parmi les 1000 questions ouvertes, celle-ci, qui a prise sur Vladimir Poutine? Le chef du service de renseignement britannique donnait cette nuit une conférence à l'université de Canberra en Australie. Alors bien sûr, en temps de guerre, il faut se méfier de la guerre de l'information. Mais la situation que décrit Jeremy Fleming, d'après les informations recueillies sur l'armée et le processus de décision russe, ne sont pas reluisantes.
We've seen Russian soldiers short of weapons and morale.
Nous avons vu des soldats russes, à court d'armes et le moral en berne, refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion. Et même si les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité, ce qui se passe et l'ampleur de ses erreurs d'appréciation doivent être parfaitement claires pour le régime. La grande ironie, bien sûr, c'est que Poutine a provoqué exactement ce qu'il essayait d'éviter. Une Ukraine avec un sens renouvelé de la nation, une OTAN plus unie que jamais et une coalition mondiale de nations qui condamne ses actions.
Voix off, Richard Place. En Ukraine, la ville clé, une fois de plus, c'est Mariupol, entre 150 et 200 000 personnes piégées dans la ville à laquelle l'accès est quasi impossible. Cette fois-ci, après plusieurs tentatives, une opération humanitaire d'évacuation va-t-elle réussir? Hier, le ministre russe de la Défense a annoncé un cessez-le-feu et le gouvernement ukrainien et la Croix-Rouge se disent prêts à envoyer des bus pour le premier et diriger les opérations pour la seconde. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
En direct de Lviv, Ukraine, avec Benjamin Thuot. Thibaut, il est question de 45 bus.
Oui, 45 bus en effet. Certains sont déjà partis du territoire administré par l'Ukraine, au nord de Mariupol. La vice-première ministre ukrainienne Irina Verechtuk.
Nos militaires ont confirmé et garantissent le cessez-le-feu total. 17 bus sont déjà partis de Zaporizhzhia. Nous ferons tout notre possible pour qu'ils arrivent aujourd'hui à Mariupol et prennent les civils qui n'ont toujours pas pu quitter la ville.
Sur le terrain, deux équipes du Comité international de la Croix-Rouge sont en route. Mais ce n'est pas pour ça que le succès de l'opération est garanti. Aliona Zinenko est porte-parole du CICR. Elle est au micro de Marie-Pierre Véraud.
Il y a eu beaucoup de déclarations des deux côtés qui ont été faites. Mais ce qu'il nous faut absolument pour pouvoir travailler, ce sont des accords très concrets sur les heures, les chemins, et que tous les responsables militaires sur place les respectent pour qu'on puisse amener du matériel et aussi faciliter le départ des personnes qui veulent quitter la ville.
Des questions très concrètes donc, et toujours en suspens. Depuis ce matin, les réunions de coordination se succèdent pour arriver au plus vite à une organisation validée par les belligérants. Selon le CICR, les premiers transferts de population pourraient commencer demain.
Thibault Lefèvre en direct d'Ukraine avec Benjamin Thuot. À l'instant, cette déclaration du secrétaire général de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg. Contrairement aux promesses, il ne note aucun retrait russe. Il dit même que l'OTAN s'attend à des offensives supplémentaires. Le président Zelensky continue sa tournée des parlements. Devant celui des Pays-Bas, il appelle les Néerlandais à boycotter l'énergie russe. Selon l'agence France-Presse, la Commission européenne vient de mener des inspections surprises au sein des locaux de Gazprom, la compagnie gazière russe en Allemagne. Motif avancé, Gazprom est suspecté d'avoir violé les règles anti-concurrence pour faire monter les prix. En France, les sanctions contre l'économie russe ont des conséquences pour des particuliers russes, pas du tout soutien du régime et qui vivent dans notre pays. Depuis quelques jours, émergent des témoignages de clients de banques françaises dont les virements sur les comptes sont bloqués, le salaire notamment. Mélanie Kuzelevitch, avant de pouvoir toucher leur argent, ils doivent attendre quelques jours le temps de vérification.
Anna vit en France depuis 22 ans. Elle a la double nationalité, française et russe depuis 5 ans et travaille pour une grande société industrielle française. Avant-hier, elle va sur son compte bancaire et là, c'est la très mauvaise surprise.
Ce qui se passe, c'est que mon salaire est apparu sur mon compte dans l'après-midi, il y a 2 jours. Et à 22h, il est disparu. Donc il n'était plus sur mon compte.
Elle s'aperçoit rapidement que tout son compte bancaire est bloqué.
Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de recevoir un quiconque versement sur mon compte. Par exemple, un remboursement de la sécurité sociale ou ne serait-ce qu'avoir un versement d'un compte qui m'appartient à un autre compte.
Anna file donc tout de suite à la banque pour savoir ce qu'il se passe.
J'ai posé la question, est-ce que ma nationalité pouvait avoir quelque chose avec ce blocage? Et on m'a répondu, bien sûr, c'est parce que vous êtes russe. Ils nous ont dit, c'est à cause de la guerre en Ukraine.
Anna n'est pas la seule. Dans ce cas, d'autres Russes vivant en France connaissent le même problème. Ils sont plus d'un millier à signaler des blocages bancaires ou des disparitions temporaires de leur salaire sur un groupe créé sur la messagerie Telegram. La direction de la Société Générale nous assure de son côté, je cite, qu'elle ne bloque pas le compte de ses clients sur le seul critère de la nationalité. Mais la situation internationale a conduit à un durcissement de la réglementation et que la banque ne fait que l'appliquer.
Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre, réfugiés dans les pays limitrophes en Europe et ailleurs. Et il y a évidemment des enjeux politiques à cela. Dimanche prochain, législative en Hongrie. Viktor Orban et ses proches sont au pouvoir depuis 12 ans. L'hégémonie du dirigeant national populiste est contestée par une opposition unie de la gauche radicale à l'extrême droite. La guerre en Ukraine le place doublement dans une position inconfortable. Sa proximité avec Poutine et les réfugiés qui affluent d'Ukraine, selon les autorités, plus de 500 000 sont passés dans le pays depuis le début de la guerre. Il doit revoir son discours anti-migrants. Sur place, après 3 semaines d'inaction, le gouvernement s'est décidé à prendre les choses en main en ouvrant il y a 10 jours un centre d'accueil à Budapest. Les ONG sont plus seules, mais les choix du gouvernement, Louise Baudet, continuent de faire débat.
Des trains comme celui-là, il en arrive 3 par jour dans cette gare de l'Est de Budapest. Ce soir-là, une centaine de réfugiés sont guidés vers les bus qui les emmènent au Box Stadium, une salle de sport reconvertie en centre d'accueil, un immense hall où transitent chaque jour 1000 à 1500 réfugiés. Parmi eux, Daria, 15 ans, tout juste arrivée avec sa mère et sa sœur.
On a dû partir d'Irpin pour nous réfugier à Lviv, qui était plus sûr. Mais on a commencé à entendre les sirènes et on a su qu'il fallait repartir. On est allé en Roumanie et maintenant, on va à Prague, en République tchèque. Des amis nous ont dit qu'ils pouvaient nous aider là-bas.
Ici, on trouve nourriture, billets de train, hébergement, voire protection temporaire qui permet de travailler, d'être soigné, de scolariser ses enfants en Hongrie. Mais le système a ses failles. Magda Major du comité Helsinki.
Plus d'un demi-million de personnes sont arrivées et seulement 7000 ont fait une demande de protection temporaire. On voit bien qu'il y a un gros manque d'informations. Depuis 2015, tout ce qui permettait d'aider les réfugiés a été peu à peu détruit. Il faut tout reprendre à zéro, car le système d'asile a été démantelé.
Un virage à 180 degrés dénoncé par l'opposition à 3 jours des élections. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
Pas d'entrepôt Amazon pour l'instant à Fontaine, dans le territoire de Belfort. Le tribunal administratif de Besançon annule le permis de construire. Il avait été saisi par des associations écologistes. Un peu de musique avant la météo. Musique classique, la soprano Patricia Petitbon sort La Traversée. Nouvel album qui est une traversée des grands airs de la musique classique et met en avant les héroïnes du répertoire de l'opéra. Disque haut en couleur, Stéphane Capron, enregistré avec l'orchestre baroque La Cetra.
La Cetra fait entendre la tempête dans cet air de l'opéra Rinaldo de Handel. Armida, la reine de Damas, invoque les enfers face au roi de Jérusalem. Patricia Petitbon, formidable interprète sur les scènes d'opéra, parvient à transmettre sur disque toute l'émotion de ses grands rôles féminins. Patricia Petitbon a choisi de célébrer les grandes héroïnes du répertoire.
Le héros, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui résiste, c'est celui qui fait face à son destin, quelquefois pas du tout attendu, mais qui est tragique. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter à travers de grands personnages féminins, comme Idoménée, Alceste, Cléopâtre, la grande duchesse, qui est un petit peu plus légère. Mais finalement, vous voyez, cet air d'Offenbach, que j'aime les militaires, tout d'un coup apparaît comme un air mortifère. Dans l'époque que nous traversons actuellement avec la guerre.
Cet album de Patricia Petitbon est un formidable voyage dans les joyaux de l'art lyrique.
Les militaires Offenbach sur l'album La Traversée de Patricia Petitbon, c'est chez Sony Classics. Attention à la neige, alerte à la neige, nous dira Jean-Pierre Hameau dans le Nord et le Pas-de-Calais, vigilance orange. Inquiétude peut-être dans le Nord, mais bonheur en tout cas dans les stations de ski. Frédéric Piton est le directeur de l'Office du tourisme de la Toussuire-les-Cibelles.
Cette neige qui arrive, pour nous, c'est une bénédiction, hein, parce qu'on a fait une saison pratiquement parfaite au niveau du temps. Et c'est vrai qu'on arrivait un petit peu au bout de notre potentiel neige. Et la neige qui va arriver va nous donner un petit peu de joie, ouais, de baume au cœur, de nous permettre de finir idéalement la saison pour les clients qui arrivent jusqu'au 15 avril prochain. Donc c'est génial, on est heureux en termes de chiffre d'affaires. Je crois que c'est la saison référence. Ça va la devenir en tout cas. Mais entre nous, après la saison catastrophique, hein, la non-saison qu'on a vécue, c'est juste souhaitable, apprécié vraiment, et que ce soit pour les remontées mécaniques, tout le modèle économique d'une station. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des restaurants, des bars, des hébergements qui avaient besoin d'avoir beaucoup de rentrées d'argent. Cette année, je crois que tout est au rendez-vous. C'est une saison record.
À propos recueilli par Mélanie Tournadre de France Bleu, Pays de Savoie et Jean-Pierre Hameau dans un petit instant.
Le goût, c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête.
France Inter et la Massif vous proposent Les Secrets du Goût, une conférence interactive animée par François-Régis Gaudry.
Rendez-vous le mardi 5 avril à 20h avec mes invités, le neurobiologiste Gabriel Lépouzé et la chef étoilée Stéphanie Lequelec pour des expériences inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles.
Les Secrets du Goût, une soirée unique à vivre en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France. Informations sur franceinter.fr.
En partenariat avec la Massif. La Massif, c'est vous.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal ? Et le droit d'avoir un travail, alors ? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Le temps est hivernal cet après-midi, dans le Nord en particulier.
Oui, d'ailleurs Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, neige et verglas pour un épisode de neige attendu en seconde partie de nuit prochaine sur les Hauts-de-France, gagnant en fin de nuit à la Somme et la Haute-Normandie. Oui. En attendant, cet après-midi, nous allons retrouver des petites pluies entre Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne en passant par le centre Val-de-Loire. De part et d'autre de cette perturbation, prévoyez un temps agité avec de fréquentes averses, voire de giboulées de neige hein, entre les collines normandes et les frontières belges, pouvant momentanément tenir au sol. Le vent va souffler près des côtes de la Manche jusqu'à 70 km/h. À noter des chutes de neige hein, aussi sur tous les massifs montagneux à partir de 1200 mètres d'altitude. Prévoyez quand même d'assez belles éclaircies autour du golfe du Lion, en basse et moyenne vallée du Rhône et jusque vers la côte d'Azur. Les températures, quant à elles, vont chuter dans la moitié nord. Les maximales évolueront entre 6 et 10 degrés. Comptez 12 à 20 pour la moitié sud.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
J'aime les livres courts, des flèches qui traversent ma vie en quelques heures. Les pavés aussi, les histoires avec des détails. J'aime les titres des livres. Avec « Je fonde des familles recomposées, rien ne s'oppose à la nuit, ce qu'il faut de nuit, notre part de nuit ». J'ai 46 ans, je suis pharmacienne, l'un de mes garçons est dyslexique. Les livres sont pour lui des donjons dont je démonte les pierres à voix haute pour créer une brèche. Mes garçons ne lisent pas. Pas encore. C'est un plaisir pour nous, à France Inter, de lire vos lettres chaque année, même celles qui font 10 pages, même les manuscrits difficiles à déchiffrer. Et à la fin, 24 d'entre vous, 12 hommes, 12 femmes, composent le jury du prix du livre Inter. C'est le 48e cette année, prix de lecteur-auditeur qui examine 10 livres, aux côtés d'une présidente de jury cette année. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour.
Présidente du jury, donc cette année, prix Renaudot en 2015 pour D'après une histoire vraie. Dernier livre paru, Les enfants sont roi chez Gallimard. Vous enlevez le casque. Oui, vous n'êtes pas obligé de garder le casque. Qu'est-ce que vous retenez des lettres que vous avez lues, vous aussi, ou en tout cas des passages que vous avez pu lire?
Je retiens une très grande diversité. En fait, c'était les lettres sont à la fois émouvantes, drôles, passionnantes. Tous ces lectrices et lecteurs nous racontent des rencontres, en fait, très souvent des rencontres de lecture, nous racontent des vies de lectrices et de lecteurs. Il y a ceux qui ont commencé à lire très jeunes, qui ont rencontré la lecture à l'école. Il y a ceux qui étaient très fâchés avec l'école, qui ont rencontré la lecture plus tard. Certains ont rencontré la lecture à l'occasion d'accidents de vie, de moments dramatiques où la lecture a été tout d'un coup plus qu'au-delà d'une consolation, une béquille, une manière de survivre. Il y a beaucoup d'histoires en fait dans ces lettres, et j'ai été souvent très amusée ou très émue en fait en les lisant.
Et évidemment, autour de la table, il y a Eva Bétan, la grande chancelière du prix du livre Inter. Bonjour Eva.
Bonjour.
Combien de lettres reçues cette année?
Alors, 2340, et l'essentiel des lettres nous arrive via notre site internet. Et il y a 1949 via le site et 391 en bon vieux courrier papier.
Bon, c'est un bon cru?
Oui, franchement, écoutez, chaque année je dis pareil, mais chaque année je trouve ça formidable. C'est pour ça que, parce que avec ces lettres nous vient tout, la littérature, la vie. Vous dites chaque fois, même si j'étais misanthrope, eh bien avec des gens comme ça, c'est facile d'aimer son prochain.
Alors on y va, on donne la liste des jurés. Je prends les jurés femmes dans ma voix et je vous laisse vous répartir, mesdames, les jurés garçons. Donc, sont sélectionnés pour ce 48e prix du livre Inter du côté des jurés. Corinne Beaufils, elle a 43 ans, elle est psychologue.
Et Serge Aumont a 62 ans, il est retraité, il vit à Torigné-Fouillard en Ille-et-Vilaine.
Anna Biesch a 31 ans, elle est orthophoniste à Paris.
Guillaume Bernard a 39 ans, il est architecte et il vit à Lyon.
Marie-Hélène Candès, 59 ans, conteuse à Norpen dans le Nord.
Emmanuel Capron, 52 ans, chef d'entreprise à Saint-Léger-les-Domards dans la Somme.
Aurore Carleton, 32 ans, elle est serveuse à Glasgow, en Écosse.
Ghislain Classeau, 35 ans, il nous dit qu'il est actuellement en congé et il vit à Leblanc, dans l'Indre.
Sandrine Gallo, à 57 ans, elle est chef de projet communication, elle vit à Grabel, dans l'Hérault.
Jean-Claude Collin, 59 ans, artisan du bâtiment à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var.
Isabelle Jouy, 63 ans, Montmorency, Val d'Oise, elle est infirmière à la retraite.
Arthur Marc Descloseau, 57 ans, est réalisateur. Il vit à Joyeuse, en Ardèche.
Cécile Lajeunesse, 52 ans, gynécologue, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique.
Maxime Gobet, 32 ans, artisan commerçant à Sébaza, dans le Puy-de-Dôme.
Aimé Minot, 46 ans, pharmacienne dans un hôpital, c'est elle dont je lisais la lettre, elle vit à Bordeaux.
Laurent Le Boterve, 53 ans, ingénieur, qui vit à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis.
Lydia Nabec, 49 ans, professeur des universités dans les Hauts-de-Seine, région parisienne.
Et Grégory Legrand Campagne, à 49 ans, il est greffier dans une cour d'appel. Il vit à Malzeville, en Meurthe-et-Moselle.
Caroline Martineau-Rouillon, 62 ans, rhumatologue, Lysore, dans l'Eure.
Johan Lévesque, 37 ans, qui est en reconversion professionnelle et qui vit à Magnac-sur-Touvre en Charente.
Emmanuel Schott, 57 ans, cadre administratif à Mercury en Savoie.
Pierre Puig de Fabregas, à 52 ans, il est consultant dans le domaine des systèmes d'information, il vit à Paris.
Françoise Trollia, à 57 ans, elle est commerçante à Montauban, Tarn-et-Garonne.
Thomas Vermelin a 33 ans, il est commissaire des armées et il vit à Marseille.
Alors je dois dire que vous trouverez tous les noms sur le site internet, ainsi que les premières pages des livres en compétition, tout ceci grâce à Anodigier.
Qui est juste derrière nous.
Dont le rôle est indispensable.
Anodigier. Évidemment, on retrouve ça donc sur internet. Et une des jurées sélectionnées est au bout du fil avec nous. Bonjour Corinne Beaufils.
Bonjour.
Vous avez 43 ans, psychologue, vous intervenez notamment en prison et dans votre lettre, vous racontez le lien que vous avez établi avec un détenu grâce à la lecture. Racontez-nous ça.
Oui, c'est ça. Un jour, c'est un détenu que je voyais deux fois par semaine et un jour, il me demande « Madame, je voudrais vous demander un service, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'établir une liste des 100 livres qu'il faut avoir lus avant de mourir ?» Selon ses propos.
Ouais. Et vous l'avez fait ?
Je l'ai fait. Alors, j'ai pas trouvé 100 titres. Je lui en ai donné 30, mais effectivement, je l'ai fait.
Alors, on voit à travers les lettres que, via la lecture, il y a des choses très intimes qui passent. Comment est-ce que vous avez réussi à accumuler ça avec la distance nécessaire entre une psychologue et un détenu?
Alors, ça m'a questionné avant de répondre positivement à sa demande, ouais. Effectivement, parce que je sentais que ça allait, créer une forme d'intimité. J'ai choisi des livres qui m'ont touchée, mais également qui, je pensais, pouvaient trouver une place dans ce travail thérapeutique qu'on faisait ensemble, parce que il parlait de choses qu'on avait pu aborder plus largement.
Et vous lui avez conseillé quoi comme livre ?
Beaucoup de choses différentes.
Ne citez pas les 100, soyez gentils.
Dalva de Jim Harrison. Pourquoi Dalva de Jim Harrison ? Magnifique livre, hein ? Mais pourquoi
alors,
Dalva ?
Dalva de Jim Harrison, je l'ai lu pour la première fois parce que je l'ai lu plusieurs fois. J'étais toute jeune psychologue, à peine diplômée. Et Jim m'avait beaucoup touchée par la manière dont Jim Harrison peut parler du féminin. C'était la première fois que je voyais ça. Enfin, que je lisais ça, et puis...
Vous pensiez que c'était intéressant pour quelqu'un qui était incarcéré d'avoir le regard d'un homme sur les femmes ?
Oui, ça peut, tout à fait. Ça peut, parce que la relation homme-femme dans une prison, elle est quand même spécifique, et puis avoir un homme qui vient vous parler des femmes, c'est autre chose qu'une femme qui vous parle des femmes.
Merci beaucoup, Corinne, et félicitations.
Merci.
Eva Bétan, lire, c'est larguer son nombril, ai-je lu dans une des lettres. Ou à l'inverse, nous avons tous une vie publique, une vie privée, une vie intime. L'importance vitale des livres, il en est beaucoup question.
Il en est question et ça vient de différentes manières. Les gens ont quelquefois l'impression qu'ils vont dire une banalité en disant c'est vital. Mais ce que je trouve formidable, c'est que chaque fois les gens vont chercher quelque chose. Par exemple, et c'était dans la lettre de Corinne Beaufils, il y a l'idée qu'on donne de l'intimité de soi à travers les livres. il y a une phrase que je trouve formidable, et qu'elle, une des jurées qui dit « Sans les livres, j'aurais été petite, étriquée, j'aurais pensé rabougrie ». Il y a toutes ces choses-là qui, dont les gens se rendent compte de l'apport énorme qu'il y a pour eux. Il y a une lettre qui est assez drôle de quelqu'un qui dit « Ma vie, ça va, bof. Mon boulot, ça va, bof. Et les bouquins, une bombe atomique. » Voilà. Donc, il y a toutes ces manières de dire que c'est important, que je trouve très belle. Et puis, il y a quelques très belles citations. Chaque année, chaque fois, je me dis, je vais les noter parce que qu'elles sont belles et tout, mais voilà.
Il y aurait vraiment un florilège à faire, je pensais, pardon, en lisant les lettres. Il y a vraiment un florilège à publier des trouvailles de lecteurs pour parler de leur rencontre avec la lecture ou de leur rencontre avec des auteurs aussi. Il y a deux expressions qui m'ont marquée. C'est sur cette relation qu'on peut avoir parfois avec un auteur, une relation très, oui, très forte. Et donc, il y a un des lecteurs qui dit « J'ai eu une longue histoire avec Pérec ». Et puis un autre qui dit « En ce moment, je chemine avec Emmanuel Carrère ». Je trouve ça joli aussi.
Eschenot suscite des très belles phrases. Oui. Hein. Il y a des années comme ça, ou même dans outre les lettres qu'on a citées, mais on voit un auteur qui est cité beaucoup dans les émissions. Alors, il y a des années.
Et moi, j'ai relevé des proches, qui n'est pas souvent cité, des livres de des proches.
Qui a été un déclencheur de lecture.
Un autre des jurés qui sera à vos côtés, Delphine de Vigan, c'est Thomas Vermeulen. Il est avec nous au téléphone. Bonjour, Thomas Vermeulen.
Bonjour.
Et félicitations, vous êtes commissaire des armées. Les soldats lisent donc aussi.
Oui, tout à fait. Commissaire des armées, le corps d'administration des armées qui sont avant tout des soldats et des administrateurs.
Alors, à ce titre, vous avez participé à l'opération Barkhane. On emmène des livres, par exemple, quand on va sur des opérations de cette nature-là?
Ah bah, je pense même que c'est indispensable, non seulement parce que dans ce genre de contexte, il y a toujours des temps d'attente à occuper, mais aussi parce que c'est l'opportunité justement d'embarquer des livres avec soi qu'on ne prend pas le temps dans la vie de tous les jours, dans une situation moins exceptionnelle de les lire.
Très concrètement, dans le paquetage, vous mettez quoi? Une liseuse? Parce qu'on peut pas mettre tout Proust dans un paquetage de militaire.
Ah non, en effet. Moi, je fais toujours le choix d'embarquer un gros livre et une liseuse pour avoir de la réserve, effectivement, avoir une bibliothèque avec soi.
Et vous discutez de livres, je crois que dans votre lettre, je regarde Eva en vous parlant, vous parlez d'un homme de la Légion étrangère avec qui vous avez pu discuter de livres, c'est ça?
Oui, alors en fait, c'est effectivement, je pensais pas que cette anecdote allait retenir l'attention du juré, mais effectivement, il se trouve que lors de mon dernier déplacement, j'avais choisi de partir. On parlait juste avant des livres qu'il fallait lire dans sa vie. Bah moi, j'étais parti avec La guerre et la paix de Tolstoï, parce que je m'étais dit qu'il fallait lire ce livre avant de mourir, effectivement, et que c'était que j'allais avoir du temps d'attente, donc c'était l'occasion. Donc je me retrouve quelque part dans une base avancée au Sahel à attendre, en lisant La guerre et la paix de Tolstoï, et par hasard, à ce moment-là, passe effectivement un légionnaire russe qui reconnaît le livre que je lis et l'auteur. Et effectivement, c'était l'objet d'une rencontre incroyable parce qu'il s'agit d'un légionnaire qui a choisi de se battre pour la France, qui reconnaît un auteur de son pays, qui me parle de l'amour de son pays, qui me parle de l'amour de l'État russe. Et d'un seul coup, tout s'efface au profit de la lecture.
Voilà, les liens qu'on établit avec la lecture. Merci beaucoup et félicitations, Thomas Vermeulen. On est appelé à se revoir dans les couloirs d'Inter. Delphine de Vigan, est-ce que en tant qu'auteur, il y a des choses que vous ne perceviez pas sur l'importance qu'on a pour des lecteurs, que vous avez un peu plus capté dans ces lettres?
C'est des choses que j'ai déjà eu l'occasion malgré tout de percevoir en rencontrant les lecteurs, et les lecteurs nous écrivent aussi beaucoup. Non, je peux pas dire que j'ai découvert vraiment des choses, mais là j'ai été vraiment émue par la diversité en fait des profils de lecteurs, les goûts dont ils font part, qui sont très très divers, des manières différentes de lire aussi. On ne cherche pas tous la même chose dans les livres. Donc voilà.
Et il y a celui qui lit en marchant, hein, qui a une liseuse et qu'il est en marchant
à travers dans la forêt. Il y a une lettre, moi, qui m'a beaucoup amusée. D'habitude, les gens nous disent, j'ai écrit 10 fois. Et cette personne-là disait, non, j'avais jamais postulé. Et puis, j'ai trouvé la manière de sélectionner honnête et surannée. Je trouve que c'est très mignon que notre manière de faire était un peu surannée. Elle est jurée.
Eva, faut qu'on donne les livres.
Ah oui, alors allons-y. Je trouve ma page.
Des 10 livres qui seront en compétition.
Voilà.
Alors, vous êtes comme moi, vous avez plein de feuilles, vous êtes aussi désordonnée que moi, c'est bon. Nathalie Azoulay, La fille parfaite chez POL.
Constance Debray, non, chez Flammarion.
Julia Deck, Monument National chez Minuit.
Philippe Génada, Au printemps des monstres, aux éditions Mialet Barreau.
Salomé Kinner, Grande couronne, édition Christian Bourgois.
Nicolas Mathieu, Connemara, chez Actes Sud.
Véronique Olmy, Le gosse, chez Albin Michel.
Maria Pourcher, Feu, chez Fayard.
Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, aux éditions de Minuit.
Et Antoine Vauters, Mahmoud ou la montée des eaux, chez Verdier.
Voilà les 10 livres en course qui seront donc également, qui sont sur franceinter.fr.
Et grâce on peut avoir les premières pages.
Odigier, les premières pages, et ben c'est parfait. Merci beaucoup Delphine de Vigan.
Merci à vous.
D'être venue dans les studios. Merci Eva, on se reverra je crois dans les semaines à venir.
Avec plaisir, oui. Et avec les auteurs.
Il est 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui, une question ouverte dans le domaine de l'art par la guerre en Ukraine et les tensions Russie-Occident.
Que diable va-t-on faire des tableaux de la collection Morozov, l'exposition ferme dimanche soir?
Rendez-vous tout à l'heure. Avant cela, notre feuilleton 5 Français dans la campagne. Aujourd'hui, Sylvana, elle est coiffeuse. Elle penchait pour Marine Le Pen. Mais finalement, à la fin de la semaine prochaine, elle choisira l'abstention. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Lecteur de lettres du livre Inter. Un titre iranien dans C'est une chanson aujourd'hui. À votre micro, il y a la photographe iranienne Rosanak Baramlou. Ces images sont exposées en ce moment dans le quartier de Ménilmontant à Paris, où se tient l'exposition Le rire des amants, une épopée afghane. C'est une exposition qui présente le regard sur l'Afghanistan de 6 photographes en exil de leur pays.
Rosanak Baramlou, ça fait maintenant 30 ans qu'elle a quitté l'Iran. Et c'est il y a 20 ans qu'elle a réalisé cette série exposée au pavillon Carré de Baudouin, un hommage aux femmes afghanes, imaginée lors d'une mission qu'elle a effectuée pour une association œuvrant à la formation de médias indépendants.
C'était après le départ des talibans en 2001. J'étais partie pour travailler pendant un an pour lancer un magazine pour les enfants afghans. Et en même temps, j'avais commencé un travail photographique sur la vie des femmes afghanes qui sortaient des années noires de l'époque des talibans. Donc l'idée, c'était de montrer la couleur et l'espoir qui revenaient dans la vie de ces femmes. Et donc, j'avais pris parti de recolorier un certain parti des photos. C'est un travail peint à la main sur les tirages originaux.
Les talibans sont revenus aujourd'hui.
Est-ce que vous avez, vous, la crainte qu'on oublie ce qui est en train de devenir l'Afghanistan?
L'idée de faire cette exposition aussi, c'était pour ne pas oublier l'Afghanistan, pour parler de ce peuple qui a une histoire magnifique, de ne pas les laisser de côté. بهار آمده با گل و سنبول ز بیداد گل لرزد بلبل
Frédéric Pommier, à qui appartient cette voix?
À une jeune femme née en Iran, comme Rosanak Baramlou, spécialiste de chant persan. Elle a joué dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, tout en s'accompagnant elle-même au setar, instrument à cordes iranien.
Elle s'appelle Sepideh Raissadat. C'est une artiste qui fait des recherches sur la musique traditionnelle et l'anthropologie persane. Elle a une voix très douce et elle est écoutée aussi en Afghanistan. C'est pour ça que je choisis cette chanson pour faire le lien, parce qu'il y a un message de l'espoir dans cette chanson qui parle du printemps, qui parle de la renaissance, du renouveau et aussi du nouvel an qui est commun entre l'Iran, l'Afghanistan et beaucoup d'autres pays de l'Asie centrale, une partie de la Chine. C'est très vaste, c'est une fête ancestrale qui est fêtée depuis des millénaires.
Au moment du printemps.
Au moment de l'équinoxe du printemps.
Et cette chanson raconte quoi sur ce renouveau?
C'est un poème d'un grand poète du XXe siècle qui s'appelle Malekoshoaroy Bahor. Le printemps arrive et recouvre la terre et la nature. Le bourgeon embellit la plaine et le rossignol trie sa joie, hélas, Il y a un automne à chaque printemps. Mon âme est bouleversée par ce monde en mouvement et déloyal. Mon âme saigne. Voilà, c'est toute la subtilité de la poésie persane qui dit attention, à tout printemps, il y a un automne. Et n'oublions pas le chagrin et la joie des uns et des autres.
Pour que la joie existe, il faut nécessairement la peine à côté.
Ou on devrait dire à l'inverse. Il faut avoir la joie pour équilibrer le chagrin.
Zephar Vanin, de la chanteuse iranienne Sepideh Raisadateh. C'était donc, Frédéric, le choix de la photographe Roshanak Baramlou.
Dont vous pourrez découvrir le travail pour quelques jours encore au pavillon Carré de Baudouin à Paris dans l'expo Le Rire des Amants, une épopée afghane.
13h49. 5 Français dans la campagne, notre feuilleton cette semaine. On retrouve Sylvana, coiffeuse à Avesnes-sur-Helpe, département du Nord, abstentionniste depuis longtemps. Elle ne votera pas à la présidentielle, elle n'est même pas inscrite sur les listes électorales. Écœurée, dit-elle, par le personnel politique, même si elle admet qu'elle aurait pu voter Marine Le Pen, la seule, pour elle, qui parle pouvoir d'achat. Reportage Anne Souhaitemont.
Alors Sylvane, à la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a à peu près un mois. Aujourd'hui, on est en gros à un peu plus d'une semaine du premier tour. Vous n'étiez pas emballée par la campagne, vous en êtes où ?
Je suis toujours pas emballée.
Pourquoi ?
Alors, il me parle de « je débloque tant de milliards, tant de millions ». Mais nous, en fait, ce qu'on fait, on s'appauvrit. Avec ce coût d'essence qui a flambé, vous allez dans une pompe, c'est un tel prix, vous allez dans l'autre pompe, c'est un autre prix, vous allez faire des courses, alors déjà ça avait augmenté, mais alors là, avec la guerre d'Ukraine, ça a flambé, alors c'est bien beau de nous mettre tous sur la guerre d'Ukraine, il faut bien un coupable, mais bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête de nous prendre quand même pour des dindons. Quand on dit que la retraite, on la bloque à 1000 euros, mais ils s'imaginent, pourquoi ils vivent pas, eux, avec 1000 euros ? Ils ont l'impression qu'ils vont nous donner quoi, là, de leur embarras. Donc, à un moment donné, non, moi, je suis révoltée.
Un peu de rock ?
Oui. Bah, au moins, on a déjà ça pour nous remettre de bonne humeur.
Depuis un mois et quelques jours, Emmanuel Macron est devenu une sorte de chef de guerre. Est-ce que vous, ça a changé votre regard sur lui ? Est-ce que vous le voyez différemment ou pas du tout ?
Pas du tout. Moi, mon ressenti personnel, en fait, lui, il a fait sa campagne. Il n'a même pas besoin de parler, il a fait sa campagne. Moi, j'y crois.
Emmanuel Macron refuse de débattre. Ça vous choque ou vous comprenez ?
Il fait sa campagne dans le silence, parce que c'est le bon samaritain. Et voilà, quoi, il sauve le monde, il sauve la France et... Enfin, je sais pas ce qu'il sauve, mais voilà, il est dans son silence et il fait sa campagne, puisqu'en fait, moins on parle et mieux c'est. Moi, je suis vraiment désolée de ce qui arrive en Ukraine. Mais à un moment donné, on a quand même de gros problèmes en France. Et il serait peut-être temps qu'il y en ait un qui vienne quand même sauver la France, parce que j'ai l'impression que la France, elle coule. Moi, je dis pas qu'il faut pas aider, hein. C'est pas du tout ça. Mais là, Monsieur Macron, avec son dialogue, parler de quoi ? Monsieur Poutine, si demain il a envie d'appuyer, va appuyer. Hein,
Allez, on verra un petit peu les stars pour avoir ce beau soleil. C'est qu'on a profité apparemment. Je prévois de la pluie.
La dernière fois, vous me disiez qu'il y en avait une candidate dont vous aviez l'impression qu'elle vous parlait un peu plus, qu'elle parlait du peuple et au peuple, c'était Marine Le Pen. Aujourd'hui, elle est aux portes du second tour, si les sondages ne se trompent pas. Est-ce que du coup, ça vous donne envie éventuellement de voter pour elle ?
On lui a collé une étiquette qui n'est pas la sienne. Elle est très humble par rapport aux personnes et je pense qu'elle se préoccupe quand même un peu plus de ce que vit le Français au quotidien.
Et alors, est-ce qu'elle vous a donné envie de vous inscrire sur les listes électorales ?
J'aurais dû, mais malheureusement, j'ai vraiment pas eu de temps pour moi et ni pour aller m'inscrire sur les listes.
Mais s'il y avait, par exemple, au second tour, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, ce que prédisent un peu les sondages, tout peut arriver. Là, vous auriez aimé être inscrite pour aller voter Le Pen, par exemple ?
Oui. Oui. J'aurais aimé.
Donc Marine Le Pen, elle vous a ramené vers la politique un peu.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment de la colère.
5 Français dans la campagne, dernier épisode demain, réalisation Théo Raison.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, la guerre en Ukraine cause décidément bien du souci aux grandes entreprises françaises. La fondation Vuitton se retrouve avec sur les bras la collection Morozov, on a vu pire, qu'elle exposait cet hiver. 200 œuvres de Matisse à Picasso, venues pour l'essentiel de 3 grands musées russes. Peut-on les renvoyer à bon port ou faut-il les saisir ?
Alors cette collection de tableaux, comme la collection Stouchkine, précédemment présentée dans la même fondation Vuitton, elle a été constituée par des mécènes russes, par un mécène russe qui, dans les dernières décennies du tsarisme, venait acheter en Europe et notamment à Paris. Et lors de l'inauguration l'année dernière, Emmanuel Macron s'était exclamé « En voyant ses œuvres, qui pourrait encore prétendre que la Russie n'appartient pas à l'Europe ?» C'était en 2021, autant dire il y a une éternité. Et aux côtés de Roselyne Bachelot, la ministre russe de la Culture assistait à ce grand moment de la traditionnelle relation spéciale de nos deux pays. Je cite encore le président de la République. Cette dame est maintenant visée par les sanctions internationales prises contre les hiérarques russes.
Et que peut-il advenir des pièces de l'exposition ?
Ah, elle devrait terminer cette exposition. Après l'invasion de l'Ukraine, les propos lénifiants que tenait Poutine dans la préface du catalogue étant contredits par la réalité, on aurait pu tirer le rideau de fer, un peu plus tôt. Mais 1 million de visiteurs ayant été au rendez-vous, on a préféré exploiter le filon jusqu'au bout. Et le dernier jour d'ouverture a été retardé. 3 avril au soir. Alors faut-il vous recommander de vous y presser ? En 1939, les élites européennes s'étaient bousculées à Genève pour une exposition des trésors du Prado, sauvés de la guerre d'Espagne, parce que chacun pressentait qu'on n'était pas prêt de les revoir.
Mais l'échéance a beau être retardée, la question demeure, que va-t-il advenir des œuvres le mois prochain ?
Ah, leur retour était prévu pour le 15 mai au plus tard, mais l'espace aérien russe étant fermé, on voit pas bien quel chemin elle pourrait prendre. La voie maritime ? Et qui accepterait d'assurer pareil trésor dans l'état actuel des choses ?
D'autant que beaucoup de voix s'élèvent pour réclamer la saisie.
Enfin, un certain nombre de voix avec des arguments assez drôles. Ainsi, Thomas Clair dans Libération samedi. Bernard Arnault, le patron de Vuitton, assure sans cesse qu'il faut casser les codes. Alors que ne met-il sa maxime en œuvre dans la circonstance ? Il se comporterait, dit Thomas Clair, en homme d'avant-garde. Mais le monde du luxe n'aime pas faire sauter les coutures. Et sacrifier des décennies d'investissement pour un coup d'éclat, alors que la Russie et l'Ukraine vont peut-être parvenir, n'est-ce pas, à un accord. Et puis, l'Europe occidentale, de son côté, a des œuvres prêtées en Russie. L'Italie, en particulier, qui organisait une année culturelle croisée avec Moscou. De leur côté, le Louvre, Versailles, la BNF ont récupéré de justesse des objets qui devaient figurer dans une exposition du musée du Kremlin.
Et que dit le droit ?
Alors, les collections Morozov et Stouchkine ne sont pas sorties pendant des décennies parce que leurs propriétaires, puis les héritiers des propriétaires, contestaient la confiscation dont ils ont été victimes. Un décret de Lénine, 1918. Alors, les contentieux ont été peu à peu liquidés et sont apparues de nouvelles règles qui rendent quasi impossible les saisies à l'étranger. Une loi française, août 1994, empêche le séquestre d'œuvres appartenant à des institutions public étrangère. Et dans le cas de la collection Morozov, le ministre des Affaires étrangères a signé en sus un décret d'insaisissabilité d'eux-mêmes, parce que le deuxième tout dernièrement, pour permettre la prolongation. Alors vous me direz, il y a le droit, mais aussi le tordu. Reste la possibilité d'être retort. Le voyage des œuvres semble difficile. Le sort des Français coincés en Russie peut le devenir. On peut garder les œuvres en lieu sûr. Comme engage. Et puis, quelques œuvres appartiennent à des musées d'Ukraine. Alors, un sort particulier doit leur être fait.
Ces affaires peuvent durer très longtemps.
Oh, bah oui. 2014, un musée d'Amsterdam, Allard Pearson, organisait une exposition sur l'or des sites. Les quelques 2000 pièces venaient de 4 musées de Crimée. Sur ces entrefaites, Poutine envahit la Crimée. Alors à qui remettre ses œuvres? À l'État ukrainien? Au musée criméen? En 2022, le droit néerlandais, c'est pas le droit français. La procédure judiciaire n'est pas achevée, même si la dernière décision en date est importante, puisque en décembre dernier, la cour d'appel d'Amsterdam a jugé que les œuvres devaient être restituées à l'Ukraine. Et à l'époque, le président Zelensky avait commenté « Nous allons d'abord récupérer l'or des sites, puis la Crimée ». Alors on comprend la satisfaction qui était alors la sienne. La récupération de la Crimée, c'est pas demain la veille.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Vous jouez à Jurassic Park aujourd'hui dans la Terre
au Carré. Oui, on va bricoler le vivant pour essayer de faire revivre des espèces disparues.
À tout de suite.